RCF.
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et à l'égalité, RCF Pays de l'Ain vous propose plusieurs émissions l'heure indinoise en partenariat avec la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur le collège de Pondin, collège Louise de Savoie, qui candidate pour obtenir le label égalité filles-garçons. Merci de nous accueillir, mesdames. Alors, Eugenia Osas-Mota, vous êtes la principale de cet établissement scolaire. Anne Maté, vous êtes enseignante, professeure d'histoire, de géographie, d'éducation morale et civique. Et Virginie Clémendeau, vous êtes professeure documentaliste. Quelques mots peut-être d'abord pour bien situer où nous sommes de présentation sur ce collège Louise de Savoie, ici à Pondin. Combien d'élèves, de professeurs, Eugenia Osas-Mota?
Le collège Louise de Savoie compte 587 élèves. Nous avons 21 classes, 6 classes de 6e et les autres niveaux sont répartis sur 5 classes. On accueille également plus de 35 professeurs. Certains sont titulaires du poste ici, d'autres sont en temps partagé avec d'autres établissements. On a une dizaine d'agents, on a 6 surveillants et 2 CPE. Au niveau de l'équipe d'encadrement, on a une adjointe gestionnaire, une principale adjointe, des secrétaires d'intendance et des secrétaires de direction. Et puis, on est 2 femmes personnelles de direction.
Avec donc les cours habituels, peut-être des démarches un petit peu particulières aussi. On parlera notamment de la labellisation, mais des clubs sportifs ou culturels.
On a une classe à horaire aménagé foot qui est pour l'instant sur le niveau de 5e et de 6e, qui elle ne comprend que des garçons, mais on a aussi une section sportive sur le niveau de 5e, 4e et 3e. Elle recrute sur ces 3 classes-là. Et le professeur qui est en charge de cette section, Madame Fléchet pour ne pas la citer, a à cœur justement qu'il y ait une certaine parité dans le recrutement. Ce qui fait que cette année, sur les 16 élèves, on a une légère prédominance de filles. Il y a une fille de plus par rapport aux garçons, mais la volonté, elle est effectivement que la parité soit dans la mesure du possible respectée. L'offre culturelle est très importante dans l'établissement. C'est quelque chose qui a été développé ces 2 dernières années, donc depuis l'année dernière. Et on essaye de mettre en place tout un tas d'actions en lien avec la culture, le théâtre, le cinéma. Cette année, on a un axe très fort dans le cadre de notre recherche de labellisation de l'établissement. Mais effectivement, on a essayé de faire en sorte que ce ne soit pas qu'un établissement uniquement tourné vers le sport, mais qu'il soit aussi tourné vers la culture. Donc on essaye de trouver cet équilibre là aussi.
Avec aussi une démarche d'éducation aux médias et à l'information. Je crois qu'il y a une web radio qui existe ou qui a existé, qui va se remettre en place. Virginie Clémendeau.
Oui, effectivement, il y a une web radio qui était auparavant développée dans le CDI. Pour l'instant, elle est un petit peu en stand-by. Elle va reprendre l'année prochaine.
Une mixité sociologique, on peut parler d'un collège en milieu rural, plus qu'urbain, même s'il est situé vraiment entre Bourg-en-Bresse et Ambérieu. Il y a forcément aussi des gens qui vont travailler et à Ambérieu ou Bourg-en-Bresse ou même Lyon.
Absolument. On a des parents, effectivement, qui travaillent soit sur le bassin d'emploi de Pondin, soit effectivement sur Bourg ou sur Lyon. Un collège quand même qui reste rural, sans que ce soit péjoratif du tout.
Tout à fait,
Avec une mixité sociale importante, en effet.
Le collège Louise de Savoie à Pondin, candidate pour le label égalité filles-garçons, de quoi s'agit-il? Alors c'est vous, Anne Maté, qui allez nous expliquer, puisque vous êtes en charge de ce dossier.
Alors un label, c'est une façon de montrer qu'un établissement s'inscrit dans une démarche. Ce label Égalité Filles Garçons, c'est essayer de réfléchir dans notre établissement pour valoriser l'égalité entre les filles et les garçons. Donc c'est permettre aux professeurs de réfléchir à leurs pratiques. C'est essayer de trouver des axes de travail pour faire réfléchir les élèves sur ce thème-là. Et ce label, il est organisé en plusieurs niveaux. Donc le niveau 1, c'est celui que nous venons d'obtenir, puisqu'on a eu l'accord, on a obtenu le niveau 1. Donc ça y est, on est labellisé égalité filles-garçons. Pour répondre aux critères de ce niveau 1, il fallait un petit peu réfléchir à la mixité des options qui étaient proposées dans notre établissement. Il fallait aussi mettre en avant des moments forts dans l'année, notamment autour du 8 mars, pour faire travailler les élèves sur ces thèmes. Il y a aussi d'autres... de nombreux axes qui sont un petit peu longs à développer, mais en tout cas on a répondu aux critères, donc on va continuer de travailler à creuser pour atteindre le niveau 2.
Il y a deux niveaux,
trois
niveaux. Eugenia Osas-Mota.
Le fait de candidater à cette labellisation, c'était aussi pour nous le moment de nous poser et de centraliser toutes les actions qui étaient déjà portées par l'établissement, parce qu'il y en avait beaucoup. Mais le fait de candidater nous a permis de lister tout ce que nous faisions et de nous rendre véritablement compte que des actions en lien avec l'égalité filles-garçons, nous en faisions beaucoup, ce qui nous permettait de faire un focus sur toutes ces actions et les valoriser. Donc, Madame Matte porte ce projet et elle est aidée en ça par les autres collègues de l'équipe pédagogique, et c'était aussi l'occasion pour nous d'une forme de reconnaissance vis-à-vis du travail qui avait été déjà conduit par les collègues professeurs, documentalistes, la CPE aussi, dans ce cadre de la labellisation égalité filles-garçons.
Donc ça a été pour vous l'occasion d'un état des lieux. Oui. Il y avait d'autres raisons qui vous ont poussé ou qui ont poussé le collège à entrer dans cette démarche ?
À la fois un état des lieux et une envie de prolonger et d'approfondir cette question de l'égalité filles-garçons. Parce qu'en effet, on est labellisé depuis une semaine au niveau 1, mais il y a deux autres niveaux. Et on a des attendus pour les autres niveaux que nous essaierons de mettre en œuvre, y compris dès l'année prochaine, pour essayer de gagner encore plus en visibilité en termes d'égalité filles-garçons.
L'idée, c'était vraiment de mettre un coup de projecteur sur l'égalité filles-garçons, que ce ne soit pas tabou de le dire en fait. Toutes les actions qui sont déjà faites, c'était vraiment de montrer qu'elles participaient à rendre réelle cette égalité entre les filles et les garçons. Et notamment être plus claire vis-à-vis des élèves, c'est-à-dire qu'on travaille ces choses-là aussi en lien avec l'égalité filles-garçons, qui est un droit pour tous, qui est un droit dans la loi. Et donc il s'agit aussi d'être plus clair avec les élèves et l'afficher en tant que tel.
On pourrait se dire que c'est une question portée par les enseignants ou l'équipe. Et puis finalement, les élèves vont subir de manière positive, mais subir plutôt. Tandis que là, vous avez tenu à les informer. On est dans une démarche labellisation. C'est ça que vous voulez dire ? C'était important ? C'était quel enjeu finalement ?
Non, c'est plutôt de dire que quand on leur présente des actions, comme par exemple le travail sur l'expo, le travail avec votre radio, ce qu'on va organiser autour de la journée du 8 mars, c'est vraiment l'afficher. On est dans un travail sur l'égalité filles-garçons, et de le dire comme ça aux enfants, qu'ils fassent des liens en fait. Voilà, tout se raccroche à ça. C'est de revendiquer le fait qu'on travaille sur l'égalité filles-garçons, qu'on travaille à les informer, à les faire réfléchir, à les faire participer sur ce sujet.
On est aussi dans une phase de réécriture du règlement intérieur. Et il nous a semblé aussi important d'inclure cet aspect-là des choses, c'est-à-dire l'égalité filles-garçons, dans notre règlement intérieur. Donc on va le faire également figurer. Ouais. Au moins dans le préambule du règlement intérieur, de la même façon qu'on fait figurer déjà le fait qu'on n'est pas seulement citoyen, mais aussi éco-citoyen.
Peut-être juste une petite parenthèse, un règlement intérieur dans un collège, ça se revoit tous les...
Alors, en fait, il n'y a pas de périodicité de révision d'un règlement intérieur, mais en l'occurrence, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été retravaillés au niveau de la loi, ne serait-ce que par exemple sur la thématique du harcèlement qui est rentrée dans le cadre de la loi. Et c'est ce genre de choses. C'est quand il y a des révisions en termes de loi qu'on se doit aussi de regarder notre règlement intérieur et de le toiletter, de le remettre à jour du point de vue de la conformité avec la loi.
Et ce règlement intérieur, les élèves l'ont dans leur carnet, c'est vraiment pour tous.
Oui, absolument, le règlement intérieur figure dans les pages du début du carnet. Et dans le cadre de la réécriture du règlement intérieur, on a des élèves qui participent aussi à la réécriture du règlement intérieur et qui participent donc à introduire dans le préambule cet aspect d'égalité filles-garçons, mais aussi éco-citoyenneté.
Nous sommes au Collège Louise de Savoie à Pondin pour cette émission à l'occasion du 8 mars avec donc Eugenia Ozas-Mota, principale de l'établissement, Anne Matet, professeure d'histoire, géographie, éducation morale et civique et puis professeure en charge du dossier de labellisation égalité filles-garçons et Virginie Clémendeau qui est professeure documentaliste. Les idées reçues sur l'égalité ou la non-égalité filles-garçons demeurent encore bien présentes au collège, Anne Matet.
Quand on travaille en classe avec les élèves ont intégré le discours que les filles et les garçons sont égaux et qu'il ne faut pas dire que ce n'est pas le cas. Ça leur paraît assez normal de le dire. Après, quand on creuse un petit peu la question, ils ont du mal à faire la part des choses entre ce qui est la loi, ce qui est permis et puis ce qu'ils entendent ou les stéréotypes qui finalement sont assez intégré encore. Moi, je vois par contre un changement par rapport à il y a quelques années où j'enseignais déjà ce thème en sixième. Les enfants vont parler assez librement de la répartition des tâches à la maison. D'après ce que racontent les enfants, il y a quand même des évolutions sur qui fait la cuisine, qui fait le ménage, qui s'occupe de nous. Les enfants sont un petit peu parfois surpris, hein, un décalage entre les stéréotypes qui peuvent être plus prégnants dans les générations un peu plus anciennes et moins prégnants dans ce que eux vivent. Mais ils voient le décalage quand ils parlent de leurs grands-parents ou voilà, de situations autres.
Donc ça change.
Je trouve que ça change. Après, c'est un petit peu difficile pour eux de dépasser le fait que, oui, faire de la danse, ça peut être mal vu. Et ça, c'est difficile pour eux d'être jugés. Ils parlent beaucoup de jugement, d'apparence, d'être conformes quand même à ce qu'on attend d'eux ou ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux. Ceux qui ont travaillé sur l'histoire des couleurs et du marketing dans les magasins de jouets, on retrouvait beaucoup de choses en fait qu'ils avaient vécu eux, le fait qu'on leur ait imposé le rose ou le bleu, qu'ils ont un petit peu pris de recul par rapport à ça, ça les a fait réfléchir, mais des choses qui restent. Les familles changent, après les stéréotypes sont encore prégnants, je pense pour les... ils ont dit hein, que certains s'étaient fait moquer en faisant du foot ou en faisant d'autres sports, qu'ils le vivaient en tout cas, encore.
Oui. Virginie Clémendeau, vous ajouteriez ?
Oui, effectivement, ils sont quand même dans ces stéréotypes-là. Ils continuent aussi quand même à les faire perdurer, enfin exister. Donc, c'est vrai qu'ils ont encore un peu de moquerie par rapport à quelqu'un qui pourrait choisir la danse si c'était un garçon, ou le foot si c'était une fille. On n'incorpore pas facilement une fille dans l'équipe de foot des garçons, donc... Voilà, on avance, mais on avance doucement.
Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous constatez au moment de l'orientation, quatrième ou troisième ? Finalement, dans les troisièmes qui vont partir en seconde, vous constatez que les métiers sont encore très genrés ? En tout cas, les choix.
Un petit peu quand même. Hein. Là, en ce moment, on est justement dans le cadre d'entretien d'orientation concertée et c'est vrai que ça reste un petit peu genré. Voilà, il y a des métiers qui sont plus... des études qui sont plus choisies par des filles que par des garçons. Je pense par exemple tout ce qui est en lien avec l'esthétique. On a visité le lycée professionnel Marcel Pardet il y a quelque temps et effectivement, c'est assez prégnant. Maintenant, on a a quand même quelques garçons en troisième qui se destinent ou qui, en tout cas, ont envie de faire de la coiffure, par exemple. Donc, il y a une petite évolution de ce côté-là. Il y a beaucoup de garçons aussi qui se destinent au métier de la cuisine. Alors ça, c'est peut-être un peu plus traditionnel parce que on présente beaucoup les grands chefs, chefs 2FE ou chef F. Mais en termes d'orientation, ça reste encore un petit peu genré. Et c'est quelque chose sur lequel on essaye de travailler.
Ouais, des filles qui choisissent l'électricité, c'est encore pas très courant.
Pas très courant, c'est vrai, mais on essaye quand même de leur montrer que ça peut être intéressant. Et les professeurs de lycée professionnel qui accueillent des filles dans des filières qui sont un petit peu genrées, un petit peu masculines, sont très contents d'avoir des filles ou inversement des garçons dans leur classe.
Est-ce que quand ils ont travaillé justement sur les métiers, ils ont fait des remarques qu'ils nous ont pas forcément dit au fil des enregistrements qu'on a fait avec les sixièmes, mais par exemple, je me souviens d'une remarque aussi sur le fait que les filles étaient de meilleurs élèves que les garçons. Est-ce que ça les a fait réagir ou...
Ils étaient surpris de le lire, en fait. Surpris de ils ont plus interrogé les études que les métiers. C'est trop loin, les métiers, pour les sixièmes, mais surpris de voir que les filles réussissent mieux au bac, qu'elles ont des meilleures mentions, et de voir que, ben, pour autant, elles s'orientent plus vers des filières dites littéraires ou en lien avec le soin, notamment, ou
peut-être plus courte, filière plus courte, pas forcément.
Pas forcément plus courte, mais c'était plutôt par rapport à être de bonnes élèves. Voilà, ça les a un petit peu, ça les a marqués.
D'autres stéréotypes sur le vêtement, par exemple. On sait aussi que les images, notamment qui circulent par les réseaux, ça peut être bénéfique ou maléfique. Est-ce qu'on ose, quand on est en sixième, on est encore jeune? Est-ce qu'on ose s'affirmer
Je pense que... Alors, pour ce qui est des couleurs, ils l'ont beaucoup dit, les sixièmes. Pour ce qui est des couleurs, vraiment, ils ne sont plus du tout dans le rose pour les filles. Vraiment, Warren l'a dit aussi tout à l'heure, moi, je porte du rose et j'aime ça. D'autres petits qui ont dit, moi, m'offrir des poupées, j'en voulais pas, je les cachais dans mon armoire, elles me faisaient peur, j'ai jamais joué avec. Ils sont plus détachés peut-être des jeux, des couleurs. Après, les habits, le look, ça, c'est très particulier, surtout au collège. Je trouve qu'on peut avoir une distorsion entre ceux qui vont vraiment vouloir aller chercher à marquer, à aller prendre des habits particuliers, à vouloir affirmer un genre ou au contraire une recherche d'identité de genre. Déjà très très tôt, on voit ça. Et puis d'autres qui sont très très conformistes. Je trouve qu'on est un petit peu dans un entre-deux.
Mais c'est peut-être plus une question de personnalité de chacun que d'un poids sociétal. Virginie Clémenceau.
Moi, je pense que le choix sociétal est très important, en fait.
Surtout à cet âge-là.
Oui, à l'adolescence, on ne peut pas se marquer. Il
faut se fondre dans le groupe.
Il faut être dans le groupe. Donc ça, c'est quand même très, très important pour eux.
Il faut être dans le groupe ou contre le groupe. Ils sont plutôt dans la...
Il n'y a pas d'entre-deux.
L'opposition, l'antagonisme. Ouais. Ouais. Il y a moins d'entre-deux. Ils disent, bon, je choisis ce que je veux. Et c'est plutôt être conformiste ou complètement anticonformiste pour eux encore.
Le Collège Louise de Savoie à Pondin a reçu le label Égalité filles-garçons niveau 1. Vous allez mettre en place des actions, notamment à l'occasion du 8 mars. Alors, lesquelles ? Anne Mathé.
Alors, on voulait marquer cette journée qui est importante, qui est une journée de promotion des droits des femmes dans le monde. Et on a cherché à avoir une journée un petit peu plus tournée vers l'orientation et les métiers, justement, puisqu'on travaille dans ce cadre-là à ouvrir un vrai choix de métier pour les élèves, qu'ils soient garçons ou filles. Et donc, dans ce cadre du 8 mars, on a choisi, en fait, de proposer aux élèves une projection d'un film qui s'appelle Les figures de l'ombre et qui retrace l'histoire de mathématiciennes qui travaillaient pour la NASA et qui ont permis notamment l'arrivée sur la Lune de la première fusée et de la mission Apollo. Et dans ce cadre-là, donc on va faire une projection ouverte aux élèves volontaires, donc sans doute de 6e et de 5e en priorité. Et puis après le film, accueillir une association qui s'appelle Altec et qui peut-être, on espère, va venir accompagner donc, d'une professionnelle sans doute des métiers donc de l'astrophysique pour venir présenter son métier et expliquer un petit peu pourquoi ça peut être difficile encore pour les femmes d'aller dans ces métiers-là et dans ces filières-là. Voilà, c'est l'action un petit peu phare qu'on a cette année autour de la journée du 8 mars.
Dans le cadre de la labellisation, vous avez aussi mis en place des actions. Là, on enregistre au CDI, il y a une exposition, il y a peut-être un violentomètre aussi dans le collège où c'est en projet.
Alors, des actions, donc il y avait la recherche d'informations par les sixièmes. Les sixièmes, en fait, leur travail, c'est de créer une exposition virtuelle qui va être en ligne sur le site du collège. Il y a eu un travail aussi de fait autour des midis de l'orientation, puisqu'au collège, régulièrement, un jour par semaine, alors c'est pas toutes les semaines, mais des professionnels ou des lycées, des formations viennent présenter leur formation. Et l'idée, c'est de vraiment présenter des choses moins genrées ou en tout cas d'ouvrir aux élèves. Donc ça, c'est un travail qui se fait sur toute l'année. Après, il y avait aussi tout le travail qui est fait par les CPE et l'éducation à la sexualité, donc pour les cinquièmes, pour les quatrièmes, les troisièmes, autour de la notion de consentement, d'éducation à la sexualité aussi, de le présenter sur le thème de l'égalité filles-garçons, du respect en fait, de la culture du respect. Je ne sais pas si...
Oui, vous voulez compléter, Eugenia Ouzas-Mota ?
On a également accueilli des actions qu'on a mises en place en partenariat avec le Point Justice de l'Ain, qui sont intervenues sur deux niveaux du collège autour de la thématique, alors effectivement du consentement pour les élèves de 4e, mais également sur les dangers des réseaux sociaux pour les élèves de 5e. Dangers des réseaux sociaux un peu axés justement sur la thématique du consentement, attention à ce qu'on met comme image, ce qu'on diffuse comme image, etc. Donc on a essayé de développer le plus possible la thématique de l'égalité filles-garçons et du respect mutuel qu'on se doit les uns vis-à-vis des autres. Donc on a développé un certain nombre de partenariats, donc en l'occurrence avec le Point Justice de l'Ain, mais aussi avec ce qu'on appelait il n'y a pas longtemps le planning familial. Les professeurs d'SVT travaillent sur le niveau de 3e. Alors c'est quelque chose qui fait partie des programmes du niveau de 3e, donc qui s'appelle l'éducation à la vie affective et sexuelle. Et donc les élèves sont pris en charge par le planning familial et les professeurs de SVT qui sont formés à la question et qui justement vont travailler sur la notion de consentement, la notion de respect, la loi aussi, qui est très importante.
Donc c'est vraiment une question portée par l'ensemble de l'équipe et une question interdisciplinaire.
Et il faut qu'elle le soit. C'est tout l'enjeu de la cohérence du projet. Si on veut qu'il y ait vraiment une visibilité sur cette thématique, le fait qu'en droit, les filles et les garçons sont égaux, il faut que ce soit porté par tout le personnel en fait éducatif, mais c'est déjà le cas. Et dans le personnel éducatif, il y a bien sûr aussi les surveillants, la vie scolaire donc en général, les CPE et puis les agents, puisque on peut trouver à redire de l'égalité filles garçons, même ne serait-ce que sur les tailles qu'on peut trouver sur les tables, sur finalement on en parle tout le temps dans la vie en société, donc c'est une micro-société un collège.
Oui, vous avez dit en introduction, Eugenia Ouzas-Mota, que vous étiez deux femmes à la direction du collège. C'est parce que c'est pas fréquent ?
En collège, ça peut l'être. C'est pas une obligation ou je ne sais comment l'exprimer. C'est le jeu des mutations qui font qu'à un moment, on peut se retrouver deux femmes. Des fois, il y a deux hommes à la tête de collège, pas si loin que ça d'ici. J'ai deux collègues à la tête d'un grand collège. Ça peut être un homme, une femme. C'est vraiment le jeu des mutations qui fait qu'on peut se retrouver deux femmes. En l'occurrence, on est deux femmes. Et déjà l'année passée, et je crois que ici... Si ma mémoire me fait pas défaut, ça fait longtemps que ce ne sont que des femmes à la direction du collège.
C'est peut-être aussi une explication, je ne veux pas préjuger de vos collègues hommes, mais une des explications aussi que cette question est portée peut-être plus fortement dans les collèges. Il n'y a pas de statistiques.
On a des collègues, soit enseignants, soit chefs d'établissement, qui sont très sensibles à la question de l'égalité filles-garçons. Je pense à un de mes collègues qui, dans un lycée du Rhône, a à cœur que l'égalité filles-garçons soit respectée. Il a mis en place des distributeurs automatiques de protection féminine. Voilà, il a vraiment à cœur que l'égalité filles-garçons soit vécue, y compris dans son établissement, qui est un grand lycée. Donc, c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on est plus sensible à la question. Je pense que c'est une question qui est portée autant par des hommes que par des femmes. Il se trouve qu'en l'occurrence, on était un certain nombre de femmes à vouloir le porter. Mais on n'a pas d'opposition chez nos collègues masculins dans l'établissement. Au contraire, ils sont partie prenante parce que dans l'équipe de SVT de notre établissement, on a un homme et une femme. Et sur l'éducation à la vie affective et sexuelle, est un professeur homme.
D'autres points que vous aimeriez souligner dans le cadre de cette labellisation, donc niveau 1 obtenu par le Collège Louise de Savoie. C'est un collège donc, qui porte un nom de femme.
Et oui. Et oui, c'est un collège qui porte le nom d'une grande femme en plus. Et quand on a monté ce projet, c'est une des remarques qu'on s'est faites. Et en plus, on est un collège qui porte un nom d'une grande femme, mère d'un grand homme aussi.
Disons que cette labellisation, ce travail qu'on a commencé à faire de faire l'état des lieux, de référencer un petit peu les actions, ça donne envie de continuer parce que je pense qu'on voit plus clair dans ce qu'on fait, dans ce qu'on propose et ça nous donne un petit peu une trajectoire pour les années, en tout cas pour l'année prochaine et c'est assez motivant. Donc on va continuer.
Des livres pour les élèves sur le sujet, il y en a plein.
Oui, il y en a un certain nombre au CDI qui sont en accès libre pour les élèves. Mais on n'en a jamais assez, il en faudrait encore beaucoup plus.
Merci mesdames de nous avoir accueillies et puis donc on aura la chance de pouvoir entendre les élèves de 6e E et 6e B de ce collège qui vont nous partager leur découverte sur cette question de l'égalité filles-garçons. Merci.
Merci beaucoup. Merci.